Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accord DIAC, voir fr.renew.auto. Au quotidien, prenez les transports en commun.
RMC.
Oh, c'est gonflé. Oh, c'est gonflé.
Oh, de mortel. Donne-moi ton short.
Basket time.
On fout ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après, on perd, c'est pas grave, c'est la vie.
C'est fini. Champion d'Europe de basket, messieurs, dames. Jacques Monclar est aux anges. On est tous aux anges.
Pierre Dorian.
On est reparti pour une saison de Basket Time, votre rendez-vous du basket sur RMC, tous les mardis en podcast sur rmc.fr, avec la Dream Team, Stephen Brun, Frédéric Weiss et Arnaud Valadon. Bonjour messieurs.
Bonjour, bonjour.
Salut mon petit Pierrot.
Salut Pierre.
Ça prépare l'Euro, hein. Il fait ses valises, Arnaud.
Il décolle. Dans 2 heures, lève le train. On est écologique pour Cologne.
Bravo. En plus, tu vas en Allemagne quand même, un pays qui est quand même assez...
Tu vas boire de l'eau à Cologne?
Oui.
Des questions écologiques.
Et un tour de rein aussi, non?
On va faire un jour un podcast sur l'empreinte écologique de la NBA et là vous allez voir que vous allez pleurer. Bon, en attendant, c'est un spécial.
Ah, ça y est, Nicolas Hulot.
Il va falloir t'y faire, mon cher.
Donc, tu voudrais que les équipes NBA ne se déplacent plus en avion?
La côte de bœuf et les déplacements S-Ouest, c'est terminé.
À
quand les avions électriques, Pierrot?
J'aimerais bien.
Ou hydrogène.
Ou alors on pourrait voyager en planeur.
Bien sûr, en ULM.
Voyager en plein air, ça va pas être évident quand même.
En ULM.
T'es sûr qu'une fois que t'as mis LeBron James dans l'avion, il n'y a plus beaucoup de place.
Le truc, il plane plus, hein, je te le dis, quoi. Il tombe à pic.
La NBA, ce sera pour plus tard. C'est un spécial Euro qui débute cette semaine. La France est-elle favorite? C'est une vraie question. On va démarrer par là parce que la France fait peur, mais il y a d'autres clients très costauds. D'ailleurs, la deuxième question sera la suivante. Quel mégastar voyez-vous marcher sur cet Euro? On a un Giannis Antetokounmpo en grande, grande forme dans cette préparation. Nikola Jokic également. On va en parler. Et puis, notre quart d'heure historique. Quel joueur, selon vous, a été le plus dominant dans l'histoire de l'Euro? Évidemment, j'espère que l'un d'entre vous va me parler de Tony Parker, sinon. Et peut-être même de Boris Diaw.
Oui, ça fait les belles compètes, mais je ne sais pas s'il a été dominant comme certains joueurs sur un Euro.
C'est
toi qui vas nous en parler de Babak.
Sera bien sûr consacré à l'Euro, mais plus généralement au basket européen.
Est-ce qu'il y a des petites nouveautés sur le quiz?
Il y a une nouveauté. Là, tout de suite, il y a une nouveauté.
C'est
une nouveauté
mais simple à comprendre.
Une
nouveauté qui sera récurrente ou ce sera au bon feeling de l'Encoreman?
Ça peut être récurrent,
Ça peut être récurrent si ça marche.
Si ça marche, exactement.
C'est normal.
C'est absolument normal. Et c'est toi qui as l'origine de cette nouvelle idée, Fred, je ne t'en dis pas plus.
D'accord, il faut bégayer le nom de famille avant que ça marche, c'est ça?
Allez, c'est parti pour ce Basket Time spécial Euro.
After a long 5-year break, Eurobasket is finally back. In Eurobasket 2022, we have some stronger groups, some weaker groups, and then there's Group B in Cologne. The French squad is headlined by the 3-time NBA DPOY Rudy Gobert, and his supporting cast features additional NBA power in Evan Fournier and Timothy Luwawu-Cabarrot. Also, they should expect a solid contribution from their EuroLeague force, with Gershon Yabusele leading the way.
Défaite 96-90 de l'équipe de France de basket face à la Bosnie-Herzégovine. Mais un mauvais signal à 5 jours du début de l'Euro, les Bleus débuteront face à l'Allemagne.
Alors, c'est l'Euro 2021 que nous allons jouer à partir de jeudi, puisque c'est une des nombreuses compétitions qui a été reportée en raison de la crise sanitaire. Mais vous avez vu que même quand on parle de l'Euro, de l'équipe de France, on met des trucs en anglais, parce que le basket... Si, voilà, il faut la prononciation à l'américaine, sinon ça fait cheap, en fait. Alors, la France, vice-championne olympique, fait partie des favoris, mais le niveau est très dense. Les Bleus sont-ils vraiment favoris de cet Euro? C'est la première question qu'on se pose. La préparation était un peu compliquée, un peu chaotique, Arnaud. Hein.
Il y a eu 6 matchs, 5 victoires, 1 défaite. Alors je mets dans ces matchs les 4 matchs amicaux plus les 2 matchs officiels qui ont compté pour les qualifications pour la Coupe du Monde 2023. On va peut-être s'attarder sur cette victoire de la République Tchèque face à la victoire des Bleus face à la République Tchèque à Bercy, 95-60, mais avec une entame, et c'est peut-être ça le problème de cette équipe de France dans cette prépa. Ils avaient perdu le premier quart-temps 27-18, rebelote en Bosnie, sauf que là, il n'y a pas une victoire, il y a une défaite après 2 prolongations, 28-14 C'est le score après un quart-temps en défaveur des Bleus et finalement une défaite 96-90. J'ai additionné là les deux derniers premiers quart-temps des Bleus. 55 points encaissés, 32 points marqués. C'est véritablement ce qui alerte avant d'attaquer cet Eurobasket sur cette préparation. C'est ces entames de match. Et on n'oublie pas cette phrase de Vincent Collet fin juillet au moment de débuter la préparation. Le docteur a commencé à faire la sélection puisque Andrew Albici, Mustapha Fall avaient quitté le rassemblement. Ils sont revenus in extremis. Andrew Albici il y a quelques jours, Mustapha Fall dans les dernières heures, il a rejoint le groupe à Cologne sans avoir disputé de partie. Par contre, il y en a un qui ne revient pas, c'est Frank Ntilikina qui était blessé durant la préparation. Conséquence d'Albici et Fall de retour dans le groupe. On rappelle, ce sont deux vice-champions olympiques. Mame Jeite et Isaiah Cordinier sont sortis des 12. Les Bleus pour l'instant sont à Cologne. Ils sont 12. La liste donc ne devrait pas bouger. Albici et Fall présents.
On rappelle que dans cette liste de 12, il y a deux grands absents que sont Nando De Colo et Nicolas Batum. Nico, à qui on a posé la question ce week-end dans les grandes gueules du sport sur RMC, si les Bleus ne sont pas champions d'Europe, est-ce un échec ?
L'Euro, c'est la compétition la plus dure. C'est plus dur qu'une Coupe du Monde, c'est plus dur que les JO. C'est très 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 compliqué un Euro. Mais connaissant les garçons qui sont dedans, justement les paroles de Rudy, elles sont vraies. Ils en ont marre. Les stars n'ont jamais connu médaille d'or, même en jeune. Je sais qu'ils ont toujours des médailles d'argent, des médailles de bronze. Je parle des catch. Ils ont besoin de ça. La génération qui arrive est très très forte, mais n'a pas connu ça. Ils ont soif de ça. Ils ont soif de montrer, en fait, de confirmer. Et je sais que s'ils n'y arrivent pas, ça va être un échec pour eux, en tout cas. Ils vont mal le vivre.
Alors, ça va être un échec pour eux, en tout cas. Ils vont mal le vivre. Ça, c'est intéressant. Parce que ça ne veut pas dire non plus que Nico pense que si la France n'est pas championne d'Europe, c'est un échec sportif au vu des forces en présence. En revanche, eux le vivraient comme un échec et ça fait partie quand même des données de cet Euro pour la France, Steve.
Oui, parce que c'est la première fois que Evan et Rudy ont la destinée de l'équipe de France entre leurs mains.
Les clés du camion.
Les clés du camion, cette génération 92. Ce sont eux les seuls et uniques leaders, parce qu'avant, Nico et Nando avaient fait le tampon entre la génération Tony Boris et cette génération 92. Et donc, ils ont cette responsabilité et cette envie aussi de montrer, écoutez, la génération 92 prend le pouvoir et on est capable d'être champion d'Europe. C'est à nous de d'emmener la France vers ce titre de champion d'Europe. Après, pour la question, est-ce que ça serait un échec? J'avais dit il y a 3 mois dans cette émission, oui, ça serait un échec si on n'est pas champion d'Europe, en stipulant si l'équipe est au complet. Aujourd'hui, on a appris entre-temps l'absence de Nico et de Nando. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, ou alors ils s'en sont rendus compte sur cette préparation, que
l'importance de ces deux-là.
Exactement.
Plus de 300 sélections
exactement.
Cumulées.
Exactement. L'importance dans le jeu, parce qu'aujourd'hui, cette équipe de France en attaque, tu t'aperçois que Nando et Nico créent énormément de choses dans le jeu, avec ballon, dans le jeu sans ballon, et qu'Evan Fournier profiter de Nico et de Nando pour scorer, et qu'aujourd'hui, Evan se retrouve à mettre des points, parfois par lui-même.
Sans préparation, c'est-à-dire sans qu'on lui mette la passe régalade sur un plateau.
En situation de tir, et que offensivement, aujourd'hui, Evan, il était déjà ciblé par le passé, mais là, si tu veux taper l'équipe de France,
la première chose,
c'est tu loques Evan Fournier, parce qu'il va falloir le laisser aux autres. Allez-y maintenant, montrez-nous que vous êtes capable de jouer au très haut niveau FIBA. Pardon, oui. Je vais laisser Fred.
Non, mais c'est un problème, non, Fred? Peut-être sur le premier point que soulève Steve, c'est que ta deuxième option offensive, c'est qui?
C'est une vraie question. Alors tu peux avoir un Thomas Hurtel qui sort de sa boîte de temps en temps, mais c'est vrai que c'est compliqué de trouver d'autres options.
Rudy doit se faire violence là-dessus, tu penses?
En même temps, le ballon n'arrive pas beaucoup dans ses mains, et encore une fois, ça manque de créateurs. On parle de Nando De Colo et Nico Batum comme glue guy, c'est vrai qu'on utilise souvent ce terme, mais c'est surtout des créateurs, c'est des gens capables de fixer et de passer le ballon. Donc c'est vrai que Rudy profitait beaucoup de ça aussi. On parle des vannes, mais Rudy est vraiment ce genre de finisseur. Et c'est pour ça que d'un côté, moi je suis assez content que Mousse Fall revienne dans la sélection. Alors on sait pas dans quel état de forme.
Pourquoi? Parce que offensivement, il t'apporte beaucoup.
Mais il t'apporte quelque chose de différent. Il t'apporte quelque chose de différent. C'est-à-dire une fixation dos au panier que ne peut pas apporter ni Rudy, ni Vincent Poirier. Donc concrètement, je pense que c'est une bonne chose. Encore une fois, il faudra voir dans quel état. Moi, c'est pas l'attaque qui m'inquiète. Alors concrètement, il y a quand même des joueurs capables de mettre des points. Mais moi, c'est la défense qui m'inquiète beaucoup. Parce que c'est vrai que quand tu perds Frank Ntilikina, tout le monde presque rigole en disant « Attends, il joue presque pas en NBA ». Sauf quand il est là et Andrew Albici en forme, t'as tes meneurs qui mettent une grosse pression devant. Et tout le monde sait que quand t'as la pression des meneurs, derrière, t'as envie de défendre dur aussi. Là, Thomas Hurtel, lui, très bon en attaque, il est capable de créer vraiment du jeu. Sauf que défensivement, bah, c'est plus compliqué. Quand tu associes Hurtel et Fournier, bah, forcément, bah, c'est un peu chaud.
Mais il y a Albici qui revient, et ça, c'est important parce que c'est le chien de garde.
Encore une fois, la preuve qu'on
sait
pas.
Plutôt rassuré.
Oui, mais encore une fois, on sait pas pourquoi. Parce que c'est, on sait pas comment, pardon. C'est pour ça que Malédon reste aussi dans la sélection.
Est-ce que Albici pourrait débuter? Est-ce que c'est une possibilité, sachant que Hurtel a donné satisfaction en préparation?
C'est quand même Thomas Hurtel pour démarrer dans un 5. Alors Vincent Collet avait dit entre la République tchèque et la Bosnie qu'il pourrait changer son 5 de départ pour répondre à ses problèmes d'entame de match.
Ah voilà, c'est ce que j'allais te dire. Parce que
en fait,
si tu combines les mauvaises entames et ce que vient de nous dire Fred, tu te dis qu'éventuellement la solution peut être de démarrer avec Albici et ensuite de
lancer les tarpets potentiellement.
Mais on se rappelle qu'à Tokyo, Thomas Hurtel sortait du banc.
Exactement.
Thomas Hurtel n'était pas starter. Sauf que là, toute la prépa, Thomas était starter sur les 6 matchs.
Il est pas mauvais d'ailleurs, concrètement.
Il est vraiment très solide. Ouais, ouais. Alors défensivement, bien sûr que c'est pas en droit Albici, mais je l'ai vu faire des efforts, surpasser les écrans, mais ça restera pas un énorme défenseur.
Après son aide côté ballon contre la Bosnie qui donne le 3 points, c'est un peu compliqué quand même.
Mais moi, il y a des choses que j'ai pas aimées. Il y a des choses que j'ai pas aimées dans cette équipe-là, et cette préparation, elle est chaotique parce que tu retrouves André Albici qui est sorti du groupe et qui revient et qui avait beaucoup d'envie contre la Bosnie, mais qui finalement fait 5 fautes en 7 minutes parce que ce surplus d'agressivité montrait qu'il était important dans son rôle défensif. Et Mousse Fall qui a pas joué un match de 5-5 depuis 2 mois et demi avec Olympiakos. Alors oui, Mousse va changer beaucoup de choses parce que ça va amener les défenses à devoir doubler, trapper, et ça va libérer des choses à l'opposé. Mais moi, il y a des choses que j'ai pas aimées. J'ai pas aimé voir Rudy Gobert se faire manger par Youssouf Nourkic. Dans le quatrième quart-temps, Youssouf Nourkic a 3-4-5 possessions contre la Bosnie sur du post-up. Rudy est peut-être ce qui se fait de mieux défensivement outre-Atlantique sur le poste de pivot.
Il a attribué un problème collectif.
Défensivement sur le post-up ou défensivement? C'est pas tout à fait pareil comme position.
Bah, là, on a vu qu'en un contre un,
exactement.
Il a été dans le dur.
Tu l'attribues à un problème collectif ou à un problème individuel?
Mais en général, quand t'as Rudy Gobert sur Youssouf Nourkic et Rudy Gobert qui est fantastique défensivement, t'as pas envie de provoquer des aides et de venir doubler sur Youssouf Nourkic parce que tu te dis qu'en un contre un, Rudy Gobert, Youssouf Nourkic, il doit le tenir. Mais on l'a pas vu.
C'était pas le cas. Donc inquiétant.
C'était pas le cas. Bah, moi, j'ai envie de voir Rudy Gobert asphyxier ses adversaires.
On résume tout ça. La France n'est pas favorite si je vous écoute parce qu'on a parlé que de ce qui va pas.
Mais on est passé de ultra favorite.
Non, mais sérieux, je suis pas du tout ironique.
Mais Pierrot, t'as raison.
Moi,
on est passé de, avec au complet, à favori, ultra favori pour la médaille d'or, à aujourd'hui, avec les absences et cette prépa qui est chaotique, à prétendant au podium.
Ouais.
Et il y a un autre problème aussi qui va se présenter, c'est qu'il y a des garçons qui, à Tokyo, ou qui n'étaient même pas à Tokyo, qui avaient des rôles différents, qui vont devoir montrer un niveau de jeu supérieur.
Exemple, Timothée Louaou Cabarro.
Timothée Louaou Cabarro.
Le seul qui répond, c'est Gershon, hein.
Gershon Yabusele qui est fantastique.
Qui est le meilleur joueur pour l'instant des Bleus.
Mais il y a un problème, Timothée Lououa Cabarro aussi, qui était fantastique
en
à Tokyo.
Starter, pas
en
aussi important que...
Oui, mais à Tokyo, il rentrait, tâche défensive, il était merveilleux. De temps en temps, il avait un petit 3 points à mettre dans le corner qu'il mettait dedans. Là, quand t'es starter, j'ai l'impression que Timothée Lououa Cabarro, le fait d'être dans le 5 majeur, s'octroie de lui-même. Ah, il faut que je mette des points. Non, grand, c'est pas ça qu'on attend de toi.
Je pense qu'on attend un peu lui, justement. On disait, il y a pas trop de deuxième option offensive.
Oui, mais quand tu vois les entames de match défensifs qui sont catastrophiques, tu te dis que Timothée, il doit
traîne un petit peu sur la défense et c'est vrai qu'il pousse un peu plus sur l'attaque. Mais c'est vrai qu'on cherche une deuxième option offensive. Donc, je peux comprendre que lui se cherche aussi par rapport à ça.
Et Elie Okobo, qui connaît pas le très haut niveau FIBA, il a été bon en Euroleague avec l'ASVEL, mais là, on parle, le basket FIBA, on a envie de voir aussi si Okobo est capable de performer.
Un shooter, s'il prend feu.
C'est pas un shooter, Elie Okobo.
Bah, il met des points quand même.
Sur le drive, sur la percussion, de temps en temps, il tire à 3 points.
Mais c'est pas un mec sur qui tu comptes pour scorer.
C'est pas un spécialiste. Si, mais pas uniquement sur le tir à 3 points.
C'est pas ce que je voulais. Un shooter, je me suis trompé, mais c'est un mec qui doit apporter. Oui, un scoreur.
Il doit mettre des points, Elie Okobo. Oui, il doit mettre des points.
Pour comprendre un peu l'inquiétude de Stephen et de Fred, faut rappeler la phase de poule des Bleus. Ils sont dans la poule de la mort. Ils attaquent jeudi contre l'Allemagne, à Cologne, à domicile. Alors,
devant 18 000 personnes,
qui a récupéré Dennis Schroeder, notamment, qui était pas là à la Coupe du Monde, et qui nous avait éliminé il y a 5 ans à Istanbul lors d'un 8e de finale où il nous avait massacré total, Dennis Schroeder. À l'époque, il n'y avait pas non plus Nicolas Batum.
Ni Rudy Gobert,
pour cette équipe de France sortie en 8e. Derrière, on va enchaîner la Lituanie. Attention, la Lituanie, c'est un candidat très sérieux à la médaille. On avait eu du mal à la Coupe du Monde 2019. Sabonis et Valančiūnas dans la raquette.
C'est peut-être le meilleur 5 majeur de la compète, la Lituanie, avec Giedraitis, Sabonis,
Jokubaitis, Brazdeikis, l'ailier qui est en train de mettre dedans.
Les joueurs liés, t'as des très bons joueurs d'Euroleague, c'est très compliqué. Très compliqué.
Après, est-ce que ça peut pas être
on termine par la Slovénie, la phase de poule. On rajoute la Bosnie et la Hongrie.
Il faut être dans les quatre pour sortir.
Il faut être dans les quatre.
Il vaut mieux pas sortir quatrième.
Exactement, Pierrot.
Ah non, je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'il vaut mieux sortir quatrième. Parce que si tu sors quatrième,
oui, parce que le groupe A est un peu
tu joues
plus
contre
faible.
Le groupe A. Le premier du groupe A, ça peut être l'Espagne.
Espagne ou Turquie.
Donc,
Turquie, c'est pas mal.
Moi, je préfère jouer la Hongrie ou la Belgique.
Oui, sauf que.
Mais après,
d'accord, sauf qu'après, tu joues. Si tu finis deuxième, tu joues la Grèce. Si tu finis troisième, tu joues la Serbie.
Ouais, mais là,
est-ce que c'est mieux?
On est dans des calculs d'apothicaire.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il pose la question, c'est par rapport à ça.
Après, attention, l'Espagne en huitième, même l'Espagne plus faible, j'ai pas envie de me les prendre en huitième. Ça peut être le match où ça va pas fonctionner.
Sans Sergio Llull.
Évidemment, mais c'est quand même jouable.
Sans Sergio Llull.
Si on bat pas l'Espagne là, c'est chaud.
Est-ce que ça peut pas être quand même la chance des Bleus d'avoir une poule très difficile, d'être tout de suite dans le dur et pas voilà et sortir de cette mauvaise préparation et se cogner l'Allemagne d'entrée. Et puis peut-être.
Si, on peut se dire que Vincent Collet aime bien jouer des gros pour pouvoir s'étalonner après sur les matchs couperets.
Ça peut être difficilement pire.
Maintenant, le problème, c'est que moi, quand je vois les matchs de préparation de nos concurrents pour la médaille d'or, nous, on n'a pas joué d'énormes matchs, en fait, parce que Arnaud parlait de la République tchèque. Il n'y a pas Satoranski, qui est peut-être le meilleur joueur de cette équipe-là, donc on les gifle. Ouais. Les Italiens, qui étaient en préparation...
Qui ont perdu Gallinari.
On joue la Belgique, qui est une équipe qui était très faible. On les joue à Montpellier, les Pays-Bas. Donc moi, j'ai du mal à... J'ai vu un match amical. Enfin, c'est un match amical, Grèce-Serbie. Non, c'est un match de qualif pour la Coupe du Monde. J'ai dit, waouh. Le niveau de jeu.
Et j'ai du mal. Exactement la même réflexion.
J'ai du mal à jauger le niveau de la France par rapport à ce que j'ai vu de ce Grèce-Serbie, en fait. Parce qu'on n'a pas eu d'énormes adversaires.
Moi, je me suis dit, on est loin.
Ouais. Pour finir, si on liste les favoris, on va quand même y mettre la France, pas en favori numéro un, mais parmi les candidats.
La Slovénie tenante du titre. Slovénie. Encore plus fort qu'il y a un an, puisque Dragic est revenu.
Et les Grèce. Et Slovénie qui viennent de prendre 20 contre l'Allemagne.
Ouais.
En match de qualif pour la Coupe du Monde.
Exactement.
Et l'Allemagne qui jouera à domicile.
Oui.
Donc, on rajoute Grèce, Serbie, Espagne, on les met.
Non.
La Lituanie.
Lituanie devant l'Espagne quand même.
Est-ce qu'on met l'Allemagne?
À domicile où t'étais pas à l'abri. Daniel Theiss va peut-être rentrer. T'as Wagner. T'as
Dennis Schröder. Il y a en tribune pour les encourager.
Ah, c'est à dire que là, ça change tout.
Méfie-toi des Turcs.
Alors, je disais, les Turcs, belle équipe sur le papier.
Belle équipe avec Sengun, avec Larkin,
Osman, Shane Larkin.
Ils ont une bonne petite équipe. Il y a beaucoup, beaucoup de très fortes équipes, Pierrot.
Donc, nous ne sommes pas favoris. Tout le monde sera d'accord.
Mais difficile d'en sortir un vrai gros favori non plus. Hein.
Alors après, il y aura une deuxième question.
T'as dit les Grèces?
La Grèce, bien sûr.
Beaucoup mieux coaché que la Coupe du Monde où ils n'étaient pas sortis des poules. Hein.
Il y aura une deuxième question. C'est est-ce qu'une équipe avec un joueur hors norme sera plus forte qu'un collectif comme celui de l'équipe de France? C'est notre deuxième débat.
Oh! Paul Zingas with the throwdown on the offensive board. Just outworks everybody.
Kalinic launches it from midcourt.
Oh, you're kidding me! Can it get any worse for Turkey? Yes. Oh, baby! Giannis Antetokounmpo just serves up Kalatumba.
Jokic, who's having his big performance.
Doncic spins, gets in, puts it up, and it's good. I'll tell you what, you take a poll right now.
Alors, la question qu'on se pose, quel mégastar voyez-vous marcher sur cet Euro? Alors, évidemment, il y en a trois qui se dégagent. Hein. Les trois stars de la NBA, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic. Est-ce qu'on rajoute à cette liste des Shane Larkin, éventuellement Evan Fournier?
On peut rajouter Sabonis, Valanciunas, Evan Fournier. Attention à Youssouf Nurkic avec la Bosnie qui peut faire des cartons, même si je ne sais pas si la Bosnie ira loin.
Gallinari, forfait.
Ahoud, blessé au genou. Attention à Lauri Markkanen avec la Finlande aussi qui a mis 42 sur un match de prépa. Donc
ouais, mais ça va être compliqué que la Finlande aille très loin.
S'il y en a un de vous qui me dit celui qui va marcher sur l'Euro, c'est Lauri Markkanen, je sors du studio. Hein.
Attends, il y a 5 ans, il nous tape à Helsinki.
Attention, Pierrot.
Hein.
On
attention.
Parle de marcher sur l'Euro, on ne parle pas de faire des pertes.
Ah oui,
dis-moi.
Attention à Bogdanovic.
Ah, attention à Bogdanovic.
Avec la Croatie, qui est capable aussi de faire quelques cartons, mais t'as raison de dire que Giannis, Jokic et Luka Doncic risquent de faire carnage sur carnage.
Alors, parlons de ces trois-là déjà. Qu'est-ce qu'il y a autour? Est-ce que c'est des collectifs forts ou est-ce que, par exemple, la Grèce, c'est avant tout Giannis Antetokounmpo?
Moi, j'aime beaucoup la Grèce. Hein. J'aime beaucoup la Grèce parce que c'est bien coaché. Parce que Itoudis, c'est quand même un grand coach qui a tout de suite adapté son jeu, lui, dès qu'il est arrivé. C'est-à-dire que ça joue beaucoup plus vite qu'avant. Donc déjà, c'est hyper intéressant. Moi, je trouve qu'en incorporant Dorsey, qui est un peu un shooter... plus que un peu d'ailleurs.
C'est pas Marc Dorsey, c'est Tyler.
Tyler Dorsey qui est un shooter à 40% quand même en Euroleague hein, la saison dernière. T'as Stukas, t'as Kalates, moi je trouve que t'as une belle équipe,
Papa Petru,
bien coaché, Papa Petru, bien sûr.
À l'intérieur.
Exactement, je pense que c'est une très belle équipe. Une équipe qui peut faire mal, qui physiquement m'avait vraiment impressionné dans le match contre la Serbie. Attention à Yanis et attention à la Grèce.
Alors Yanis, il était passé totalement à travers de sa Coupe du Monde en 2019.
On disait à une époque que le jeu FIBA n'était pas pour lui. Exactement. Là, il est en train de montrer qu'il n'y a pas de souci.
Il a pris faute offensive sur faute offensive, des mauvais choix. Ça me rappelait un peu Tony Parker, ses premières compétitions FIBA quand il revenait avec les Spurs, où il prenait des murs, il avait du mal à s'adapter au jeu. C'était le cas d'Antetokounmpo en 2019. Là, il a progressé dans ses lectures de jeu, il a progressé dans le tir extérieur. Fred l'a dit, la Grèce est un peu plus armée sur le tir extérieur parce que la problématique en 2019, c'est qu'il n'y avait pas un mec pour mettre un panton à plus de 6 mètres. Là, Tyler Dorsey est un vrai tireur. Sloukas peut mettre des paniers. Elle est athlétique. Le mec qui n'a pas vu jouer la Grèce depuis 15 ans et là qui va se réveiller à l'Euro, il va se dire il y a un problème là, c'est pas la Grèce, hein, parce qu'avant c'était guerre de tranchées. Là,
ça, ça joue en marchant.
Là, c'est open court, run and gun. Position. Ça joue en 90-95 points. La Grèce est très dangereuse et Yanis, sur les matchs de prépa, marche sur tout le monde. Bon. Mais des tomards, rebonds, contre, il est dominant.
Avec un des meilleurs coachs européens à la baguette aussi, ouais, ça compte.
C'est pour ça que les Grecs font partie des favoris.
La Slovénie, tu disais, retour de Dragić qui change.
Ouais, alors c'est vrai qu'ils ont perdu contre l'Allemagne, Stephen l'a dit,
ils sont
quand même plus forts, censés sur le papier, que l'année dernière au JO, où ils perdent en demi-finale, vous savez contre qui, l'équipe de France. Donc le retour de Dragić, MVP du dernier Eurobasket, parce qu'on n'oublie pas que la Slovénie tenante du titre quand même. Ils avaient fait un Euro absolument fantastique en 2017.
À la surprise générale.
À la surprise générale, Doncic commençait à émerger sur le plan international. Il avait fait une bonne compète, mais c'était encore loin du niveau.
Chevilles, en finale, il était pas.
Exactement. On était loin du Doncic que l'on connaît aujourd'hui. Moi, les Slovènes, alors peut-être que finalement ça va faire plouf. Hein.
Ça peut faire plouf. Tout dépendra de Luka Doncic.
Ou pchit.
Bien sûr.
Dompchit. Dompchit.
On n'a pas trop peur pour Luka, mais pour les autres.
Il y a toujours les Mike Toby, les Prepelic, tout ça.
Le problème, c'est que alors la Serbie autour du Jokic, c'est quoi?
Bah c'est bon, c'est Vasilije Micić, meneur.
Kalinić
a pris une grande décision en écartant Miloš Teodosić en lui disant, mon grand, j'ai plus de minutes à te proposer.
C'est un mystère lui, non? Parce que son début de carrière était fabuleux. Ouais.
Bah c'est un fantastique joueur.
Et oui, mais après, bon, c'est pas imposé en NBA.
Bah non, Pierrot.
Non, mais
il y a un paquet de stars en Euroleague.
Juan Cannavaro, c'est bon.
Ok. Non, mais t'énerves pas dès que j'ai quelque chose.
J'ai rien dit. Jure.
Non, mais Teodosic, on pouvait imaginer un mec dominant comme Doncic quand il est parti d'Europe.
Pas le même physique. Non, pas le même physique. Pas le même jeu. Petit, okay. Gringalé.
Mais star
du basket européen, Miloš Teodosić. Alors Pešić l'a écarté parce qu'il pouvait pas lui promettre un nombre de minutes, parce qu'il voulait vraiment incorporer Micić comme star de cette équipe à la main. Maintenant les Serbes, ça connaît le très haut niveau. Nikola Jokić,
Kalinić
c'est fort. Ils ont notre ami du CSKA, là, Milutinov, qui est en backup de Jokić. Ils
ont c'est pas mal comme backup. Hein. Quand t'as Milutinov en backup, tu peux commencer à voir venir. Hein.
C'est
Milutinov qui a pas joué pratiquement depuis 2 ans.
Bah, il est frais.
Sa blessure et la boycott de la Russie, on ne sait pas trop quel niveau il aura.
Bah moi je l'ai vu sur la prépa.
Oui,
quand à un moment les Serbes sont dans le dur, Jokić est sur le banc, c'est lui qui ramène la Serbie. Donc les Serbes
en prenant des rebonds offensifs importants. Ouais,
les Serbes sont dangereux, ils ont des joueurs dont de Lucic, ils ont des mecs qui sont habitués au très haut niveau.
Alors on va faire le tour de table et répondre à la question maintenant qu'on a à peu près tous ces éléments en tête. Quel mégastar voyez-vous dominer l'Euro, Monsieur Frédéric Weiss?
Yanis.
Pour quelle raison?
Bah, pour les raisons que j'ai dit, Itoudis, qui est intelligent, qui a fait jouer autour, ils ont trouvé un shooter en la personne de Dorsey, Stukas, qui a la thèse, deux cerveaux qui ont envie de jouer avec lui.
Après, qu'il y ait un collectif, c'est important. Après, comme on l'a dit, Giannis, par le passé, n'a pas régné sur le basket FIBA. Qu'est-ce qui te fait penser qu'aujourd'hui,
Parce que justement, le problème, c'est que tout le monde était en raquette un petit peu avant, parce qu'il n'y avait pas vraiment de shooter. Quand t'as Dorsey, ça écarte un peu plus le jeu. Encore une fois, le jeu en mouvement prôné par Itoudis avec Giannis est hyper intéressant. Et Giannis, il y a des gens qui pensent qu'il n'a pas été bon avant en basket FIBA. Et ben, il a envie de montrer les choses. À chaque fois, il a montré les choses. Chaque fois, il était meilleur. Il progresse d'année en année. Et le mec comprend le jeu, contrairement à ce que dit Gilbert Arenas.
C'est surtout ça, c'est que le mec progresse. Énormément.
Et il progresse tout le temps, il lit, il a envie de progresser,
2019,
il lit le jeu,
il est... 2019, Yanis, il prend pas un tir externe.
Exactement.
Aujourd'hui, il prend les tirs externes.
Qui va dominer cet Euro à titre individuel, Arnaud Valadon?
Nikola Jokić, le double MVP, quand on voit en prépa. Alors, il y a ce tir qu'il met sur la tête d'Antetokounmpo, incroyable, pied inversé, mais je le trouve à un niveau de jeu absolument fantastique, il met tout, enfin, c'est incroyable et... Pour moi, ça rejoint ce qu'on disait sur la Serbie. Ils sont armés, je trouve Jokić encore plus rayonnant qu'avant.
Quoi. Et tu vois la Serbie aller au bout, aller en finale?
Dernier carré.
Est-ce qu'on peut dire qu'on domine la compétition quand on s'arrête en demi?
Pour moi, ils sont prétendants au titre.
Ouais,
Clairement, mais là,
on regarde la question un peu sous un autre aspect, c'est-à-dire sous l'aspect des individualités et des joueurs majeurs. C'est-à-dire que si tu me dis que tu les vois s'arrêter en demi... Est-ce que ça non, je veut dire que Jokic va dominer l'Euro?
Après,
ah voilà. Là, je
me mouille.
À toi, Steve.
Yanis Antetokounmpo. J'aurais pu dire Lucas. Et le vrai problème de Lucas, c'est que il tient tellement le jeu de la Slovénie que sur une durée d'un Euro, parfois, il peut tirer la langue. Ouais. Tout dépend de son état physique. Rappelle-toi, à Tokyo, il est cramoisi à la fin.
Tout dépend
contre,
s'il y a,
la France.
S'il y a des match... McDo près de la salle d'entraînement des
Slovènes. Il a été rigoureux, mais rappelle-toi.
Après, Mike Toby, il va souffrir aussi, hein. À l'intérieur, il va souffrir sur cette
Euro-là. Des jeux, il est cramoisi, Lucas, contre nous, et pour match 3e-4e place, il est cramoisi. Donc, et sachant que tous les ballons passent par lui, et que la
poule. Porte trop l'équipe pour le coup.
Et que la poule, eh ben, il n'y a pas de match où il va pouvoir se reposer. Donc, je pense, Lucas, capable de tirer la langue.
Mais oui, premier match des Slovènes, Slovénie, Lituanie, hein, jeudi, juste avant le match des Bleus.
Donc, je vais aller sur Yanis Antetokounmpo, MVP de l'Euro, et
Grèce champion d'Europe.
Grèce champion d'Europe.
Tiens, on va quand même citer deux, trois autres noms qu'on n'a pas évoqués, même si on n'est pas sur le même niveau, mais on regardera quand même Sacha Vezenkov et pour la Bulgarie, Lorenzo Brandt pour l'Espagne quand même, Shane Larkin en a dit un mot, et Nurkic, Youssouf Nurkic, étonnant quand même que...
Je suis pas surpris, c'est un fort joueur. Avant sa blessure à Portland, c'était monstrueux avec les Trail Blazers. C'est un mec qui a des mains en or, qui est un bon passeur, Youssouf Nurkic, qui est costaud.
Qui est un animal.
Qui est un animal, qui peut mettre dedans à mi-distance. Alors tout dépendra de la Bosnie. Il faut que la Bosnie, ils sont dans le groupe de la mort avec nous.
Ouais, c'est ça.
Il faut qu'ils soient dans les 4, ça va être compliqué. Mais Youssouf Nurkic peut faire des cartons en poule.
Ah oui, la Bosnie va avoir du mal à sortir de ce groupe. C'est inquiétant pour nous, ça, non?
Lituanie, Slovénie, ouais, France, non, Allemagne.
Vu comment on a souffert face à la Bosnie, c'est un peu inquiétant.
C'était chez eux.
C'était chez
eux. Chez eux, ils étaient galvanisés, ils avaient envie de taper la Spapa et un Pierrot.
Pas les mêmes conditions.
Un arbitrage. Ah, peu maison.
On a perdu à cause de l'arbitrage, maintenant.
Et un début de match catastrophique, encore une fois.
Tiens, messieurs, nous allons passer à notre partie historique. C'est Basket Time que vous retrouvez donc en podcast tous les mardis sur rmc.fr.
Qui a l'écran de Joan Petro pour peut-être le panier à 3 points.
On y a une possession.
Will Germany find Nowitzki? Has he got one more shot in him? He puts it up. Oh, Dirk Nowitzki! 3.9 seconds. Dirk Nowitzki is a superhuman. Unbelievable.
Over to Gasol just behind the line and the veteran, the 35-year-old Gasol.
La question, elle est toute simple. Quel joueur, selon vous, a le plus dominé un Euro de basket dans l'histoire de l'Euro? On demande une individualité, donc, et puis, bien sûr, vous allez raconter la compète qui va avec. Fred, tu démarres.
Ben, je vais démarrer avec plaisir. Alors, c'est le joueur qui m'a le plus impressionné parce que j'ai eu la chance ou la malchance d'être présent. Donc, je vais parler de Pau Gasol en 2015. Alors, je vais pas parler de la phase de poule parce que, alors, elle est hyper intéressante, mais j'ai commencé directement en huitième de finale. L'Espagne affronte la Pologne et Pau Gasol, il met son petit 30 points tranquillement. Il domine, il archi-domine même sur ce match assez simple pourtant pour l'Espagne, mais il est là. En quart de finale, c'est un gros match. Espagne-Grèce, 73-71 pour l'Espagne à la fin, 27 points, 9 rebonds pour Pau Gasol, d'accord? Et là vient le match qui fâche, qui a attristé tout le monde, le match contre la France, où l'Espagne gagne après prolongation 80-75, et Pau Gasol met la moitié des points de son équipe. 40 points, 11 rebonds, un massacre total, il a surdominé ce match, et d'ailleurs j'ai encore du mal à comprendre comment on n'a pas su trouver des
on
options sur lui.
On avait qui nous à l'intérieur?
On avait Rudy Gobert par exemple, on avait Geoffrey Lauvergne et...
Flo, on voit Flo.
Voilà, on a tout essayé. Concrètement, c'était quasiment impossible d'arrêter.
Vincent Collet est rentré pour doubler.
Ouais, à un moment, il voulait. Ouais.
Il a mis une petite main plate derrière la nuque.
Et ça a servi à rien du tout, donc encore une fois, 40 points. Et pour finir, finale, 25 points, 12 rebonds contre la Lituanie. Titre pour l'Espagne. Alors, il faut rappeler le contexte. Hein. La France les avait battus en 2013. La France avait gâché la fête du Mondial en 2014. Donc, ils étaient revanchards et Gasol s'est bien vengé. Il finit meilleur marqueur avec 25,6 points. Troisième rebondeur, presque 9 rebonds. Meilleur contreur, 2,3 rebonds. Et donc, il finit MVP de ce tournoi. Il a été juste monstrueux, fantastique. En basket FIBA, j'avais jamais vu ça.
Pau Gasol, donc en 2015, si on le met, si on fait une hiérarchie des plus grands joueurs européens de tous les temps, il est quoi, lui? Il est dans
top 3.
Ouais, top 3, on va dire. Top 3, parce que c'est difficile vraiment de faire une hiérarchie précise. Pour moi, je le mets dans le top 3, évidemment.
Top 3 avec
Gasol, Tony et Dirk.
Ouais, voilà, je pense qu'on est pas mal.
On parle de quoi? Que de basket FIBA?
Oui, non, que basket
FIBA ou NBA? Parce que basket FIBA, je pense que Pau Gasol est numéro 1.
D'accord.
Donc, je pense qu'il faut mélanger un petit
notamment
peu.
Notamment sur cet euro et oui. sur sa carrière en club.
Puis les titres qu'il a gagné avec l'Espagne.
Donc, Gasol 2015, Steve.
Bah écoute, moi c'est Eurobasket 2005, là. Fred l'a vu aussi de ses propres yeux. C'est vrai. C'est des plans d'ailleurs.
Juste avant que tu commences, est-ce que tu penses qu'il y a une émission dans l'année qu'on va pouvoir faire sans que tu parles de Dirk Nowitzki?
Bah, ça dépend des sujets. Là, c'est un sujet qui, Dirk Nowitzki s'impose dans ce talk historique, Pierrot. Eurobasket 2005, l'Allemagne débarque avec une superstar et 11 joueurs de devoir. Une petite pensée à Demola Okulaja qui était absent en 2005, mais c'est un garçon qui a porté l'Allemagne et qui nous a quittés il y a quelques mois. Aucune chance de médaille selon les bookmakers. Un premier groupe relevé avec l'Italie, l'Ukraine et la Russie. Les Allemands qui perdent d'entrée de jeu contre la Squadra Azzurra malgré les 27 points, 15 rebonds de Dirk. Le lendemain, ça met une fessée contre l'Ukraine, 27 points de Nowitzki. Et le dernier match pour la qualif contre la Russie, invaincu jusque-là d'Andrei Kirilenko. Et Dirk réalise un quatrième carton incroyable avec 11 points et le tir à 3 points de la gagne. Il finit avec 24 points, 19 rebonds. 3 interceptions, 2 contre. Qualif en barrage contre les Turcs, là encore Dirk est sur un nuage, 33 points, 10 rebonds, 3 contre. Qualif en quart contre les Slovènes. Les Slovènes qui faisaient figure de favori de cet euro, parce que je crois qu'ils tapent la France en poule, la Slovénie, avec Boki Narbar, Sani Besirovic et toute la clique. Ça tape les Slovènes. 22 points, 9 rebonds pour Dirk. On arrive en demi contre l'Espagne. Le sommet de la carrière de Dirk en équipe nationale face à cette équipe espagnole. Un point d'avance pour l'Allemagne, pour l'Espagne à 15 secondes de la fin. Dirk, balle en main, drive sur la ligne de fond. Petite pump fake. Petite fin de tir. Garbarossa quitte ses appuis. Dirk se lève. Tchac, filoche. Qualification de l'Allemagne en finale.
C'est bien la filoche, hein. Le tchac, là, il a diété.
27 points, dont 11 dans le dernier quart-temps. 7 rebonds pour emmener cette équipe.
Avec son corps bizarre penché en arrière, là.
Et l'Allemagne, l'équipe de faire valoir qui arrive en finale contre la Grèce. La Grèce qui s'est défaite de la France, en demi-finale. On se rappelle tous, et les Grecs sont trop forts pour les Allemands avec un Dirk émoussé. Dirk sort à 3 minutes de la fin. 19 000 spectateurs. Spectateurs de la Belgrade Arena se lève pour lâcher une énorme standing ovation à ce garçon qui finira MVP de la compétition en étant meilleur marqueur de la compète avec 26 points, deuxième rebondeur, quasiment 11 rebonds et deuxième contreur, quasiment 2 rebonds. Et l'Allemagne sera médaillée d'argent de l'Euro avec une petite équipe, mais une superstar.
Alors donc là, on a Pau Gasol et Dirk avec un petit bémol. C'est très bien là, franchement, mais petit bémol, là tu vas pas batailler, je dis juste un bémol.
Il gagne pas.
Il gagne pas.
D'accord.
Exactement. Okay. À toi, Arnaud.
Regarde, cite-moi 5 joueurs de l'Allemagne.
Allez, regarde, il s'énerve. À toi, Arnaud.
C'est compliqué parce qu'on va forcément en oublier. Moi, je l'ai pris pour une raison très personnelle, parce que j'ai assisté à l'Euro. C'était Goran Dragic en 2017 où il nous lâche un 35 déval en finale.
Il a pas aimé.
Alors, dans les mentions, j'ai Nikos Galis, à pas oublier, Tony, Andrei Kirilenko.
On a le droit de faire des mentions.
Je fais des mentions parce que c'est facile, je passe en dernier.
Maintenant, on fait des mentions.
Ouais, c'est beaucoup de
mentions. Mention à Arvidas Sabonis.
Razan Petrovic. Non, parce que j'ai vu Dragic marcher sur l'équipe de France, marcher sur tout cet euro. Il a juste loupé son 8e de finale contre l'Ukraine où il nous fait un petit 5 points, mais sinon c'est 22 points.
5 points quart de finale.
22 points en 8e.
It's a bémol.
22 points, 5 passes, 2 ballons volés en moyenne, 4 rebonds, 30, je vous disais 35 points en finale, 28 déval contre la France. Il régnait sur cette équipe avec le petit lieutenant qui aujourd'hui n'est plus lieutenant, Luka Doncic. Donc bref, j'ai pour mon coup de cœur, pour ma première compétition suivie à RMC aussi, il y a un petit peu d'affect avec ces Slovènes qui ont fini champion d'Europe avec Dragic MVP.
Donc il y a que Fred qui n'a pas de bémol.
Bon. Exactement.
Donc,
pas de bémol avec une équipe en norme aussi, l'Espagne.
Oui, mais 40, et il met la moitié des points contre la France. 40 points.
Et, excuse-moi, quand même, donc, n'importe lequel d'entre vous me parle de Tipeee en 2013, s'il vous plaît.
Bah, Fred.
Voilà, vas-y, Fred. Même si t'as pas bossé, t'as pas de stats, t'as pas machin, mais.
Fantastique.
Ah ouais, racontez-nous un peu quand même la performance de Tony Parker en 2013.
La performance vocale, la performance
sur son speech,
rien que sur ça, il peut être MVP de la compétition, parce que c'est vrai qu'il relance tout le monde. Tout le monde a un peu la tête sous l'eau. C'est contre l'Espagne et finalement, ce discours permet vraiment que tout le monde se remobilise et finalement, il gagne ce match et premier titre.
C'est 19 points de moyenne quand même pour un meneur. Donc
c'est loin des 26 de Dirk. Hein.
Ouais, des 25 réussis de Pau Gasol, quoi.
Un autre poste. Quand même, Gasol pour mettre
Tony a marché sur le
mais bien sûr.
Bah, alors, cet Euro 2013, oui, c'est le point d'orgue de la carrière de Tony, mais il a,
mais il a tellement de fois où il était bon.
Il est dans les meilleurs marqueurs de l'histoire de la compétition.
C'est ça.
Eh bien, c'est parfait. Nous allons terminer par un quiz, le premier de la saison.
Tie game with 5 seconds remaining. Kawhi Leonard.
Ah, Carmelo Anthony au Madison Square Garden.
Absolument pas, Stephen Brun. Vous êtes tellement mauvais, ça me fait kiffer.
Je crois que je vous ai déjà posé cette question.
Bah, pourquoi tu l'as refait alors?
Parce que, on va voir.
Il croit juste. Je commence.
Bah, quel salaud celui-là.
Tazaïa Thomas.
Un indice, c'est la machine à triple-double.
Oh, Nicolas. Russell Westbrook.
Ah, ok, si.
Mais oui, putain.
Moi, je me dis Abdul-Jabbar.
Abdul-Jabbar, c'est bon.
Je suis une merde. On n'avait pas dit ça.
On avait dit moins long. On avait dit moins long les génériques, les jingles quiz. Bon, c'est un quiz sur l'Eurobasket, mais plus généralement sur le basket européen. Bon, franchement, ça tourne beaucoup autour de l'euro quand même. Hein.
Merci.
Allez, première question.
C'est un peu le thème de l'émission.
Euro 2011, exactement. Comme c'est des.
Euro 2011.
Euro 2011, ouais. Tipeee meilleur marqueur de l'euro à 22 points, un peu plus, 22,1 points de moyenne. Mais un joueur qui n'a pas passé le premier tour a en fait inscrit plus de points en moyenne par match et n'a pas été comptabilisé par la FIBA parce qu'il n'a pas passé ce premier tour. De qui s'agit-il? Non.
Ben Gordon?
Non.
Lui Holding,
absolument, bravo. Oui, il est chaud, Stifou. Hein. Là, c'était pas une question facile.
Ah non, c'était pas
Brad
facile.
Brad Britton.
La bravo, fois, ils ont unique.
C'est un truc de dingue.
C'est un truc de dingue. Il est très content. Regardez. Là, je vous annonce qu'il va vous rosser. Parce que là, avec l'adrénaline, l'euphorie de la première question qui était pas facile, je pense que là, vous partez avec un énorme handicap, les deux là.
Non. Oui, c'est possible.
Ah ouais, je suis d'accord.
Donc, premier point pour Steve. Alors, une déclaration, bien sûr. Il y en a de temps en temps.
Ça, la nouveauté?
Non. Ça, c'est depuis le début. Une déclaration qui a déclaré, en le regardant jouer, je peux voir qu'il ne comprend pas encore le basket.
Gilbert Arenas,
à propos de Giannis Antetokounmpo.
C'est parti chez Valadoun en premier.
C'est parti chez Valadoun, bien sûr.
Oui, c'est vrai.
Normalement, c'était pour toi, Fred.
Alors que Fred a parlé pendant
les années. Et
puis, dit Gilbert Arenas.
Il a
dit
ça. Moi, je dis Gilbert, parce qu'un mec, je respecte pas.
Il a dit ça quand, Citron, là, Arenas?
Ah, il y a même pas une semaine, hein.
Ah, tu connais.
Non, la podcast, il y a très peu de temps.
Je pensais que c'était il y a 5 ans.
Je voudrais que vous m'en disiez un mot, quand même, de cette phrase. Alors, il pratique le sport, il a gagné un
jeu. L'agent 0 et 0 dans l'analyse.
C'est cool, mais il ne comprend pas encore comment être un grand joueur, comment progresser, comment entraîner son corps.
Et ben moi j'ai envie de dire heureusement, qu'est-ce que ça donnerait sinon, parce que c'est quand même catastrophique ce qu'il dit.
C'est quand même un énorme HS, parce que entraîner son corps, vous avez vu la transformation physique de Giannis quand il arrive en NBA à aujourd'hui, transformer son jeu, vous avez vu la transformation du tir de Giannis quand il est arrivé à aujourd'hui, je sais pas,
il a parti en vrille, Gilbert.
Ouais, apparemment ça lui arrive souvent.
Je pense qu'il s'est fait péter un siffle avec Ron Artest avant l'émission.
Et Snoop Dogg dans le fond.
Bon, en tout cas ça fait un point pour Arnaud, un point pour Stephen. Alors voici la nouveauté. Je vais vous poser une question individualisée. Donc, là, on va démarrer par Fred, ensuite Steve, ensuite Arnaud.
C'était vos coéquipiers en équipe de France. Vous êtes comment, Arnaud?
Vous êtes les seuls à pouvoir répondre. Et si vous ne répondez pas, c'est un point pour chacun des deux autres. Hein. Il n'y a pas de point à gagner sur ces questions-là. Hein.
Ok.
Alors, on démarre avec Fred.
Oui.
France, Grèce, 2005, la demi-finale. Je te demande le 5 de départ.
De quoi? De la France ou de la Grèce?
De la France.
Rigaudo, j'ai la balle, Flo Pietrus, Babak et Fred Weiss.
Voilà, mais tu as oublié Tony Parker, donc tu as donné un point à chacun de tes.
Ouais, c'est Tony qui est starter, Antoine il sort du banc.
Non, Tony il est pas sur le terrain.
Ah non, mais qu'est-ce que j'ai fait moi? Pourquoi j'ai noté Tipeee? C'est moi qui me suis trouvé déjà dès la première.
Donc j'ai raison.
C'est affreux. Bah du coup t'as raison, oui absolument. Oui.
Je t'ai cité les.
Vérifie s'il te plaît tout de suite.
J'ai la balle.
Mon cher Jojo.
Pietrus, Duo et Weiss.
J'ai la balle, Rigaudo, Pietrus, Weiss et Boris, absolument.
Boris, il joue trop.
Boris, il joue.
Ouais, c'est Boris, c'est ça, ouais. C'est ça. C'est moi qui me suis trouvé entre Boris et Tipeee. Vérifie quand même. Parce
ça passe de nouveauté.
Ouais, c'est bien. Doute,
mais donc, c'est bon. C'est bon, ça passe pour Fred. Ensuite, Steve. Attends.
C'est pour ça que tu as posé la question ce matin à 8h du
matin. Je t'ai demandé quelle prépa tu as fait. Tu as fait donc la prépa de la Coupe du Monde 2006.
Oui, c'est au Japon.
C'est très facile. Hein. Champion du monde et meilleur joueur du tournoi. Enfin, vainqueur de la Coupe du Monde et meilleur joueur du tournoi. En 2006.
Argentine, Manu Ginobili.
Espagne, Pau Gasol. Oh,
c'est faux.
Donc, ça fait un point pour chacun de tes adversaires. Oui, c'est bien Rigaudo dans le 5. Il n'y a pas de Tipeee, on est d'accord. Bon. Ça, c'était pour Geoffrey, notre producteur, qui a vérifié la question de Fred. Donc, nous passons à Arnaud.
Préparation pour
Arnaud. Alors, t'es partenaire de l'équipe de France. Arnaud, tu vas me donner tous les sélectionneurs des Bleus depuis 2000.
Depuis 2000? Bon, Vincent Collet,
ouais.
Claude Bergeau,
ouais.
Alain Weiss,
ouais.
Si je l'ai fait dans l'ordre. Attends, 2000. Parce que ça change.
2000 compris, hein, bien sûr.
Jean-Pierre de Vincenzi.
Vincenzi, voilà, on s'accorde.
Tu as défoncé son nom, mais on l'accorde.
Ouais, ouais, ouais. Claude Mergevin Weiss. Michel Gomez.
Voilà, c'était ça le piège. Tu as bon, Michel Gomez. Ça fait donc juste le point de Steve.
J'ai dû le dire dans un désordre total.
Qui va à Arnaud.
C'est qui le joueur préféré de Michel Gomez?
Le joueur préféré de Michel Gomez, Fred Weiss, non?
Non, c'est Walter Tavares.
Donc on en est à un point pour Steve et Fred, deux points pour Arnaud, et je vais vous faire écouter un extrait de match. Vous allez devoir deviner de quoi il s'agit. C'est parti.
France-Espagne 2011-2013.
France-Espagne 2013, il est là, ce qu'il fout. Ça fait donc deux points pour Steve, deux points pour Arnaud, un point pour Fred. On enchaîne avec une charade. Vous êtes prêts? Mon premier est un meneur de l'équipe d'Allemagne pour cet Euro. Mon deuxième est la ville de Bretagne préférée du Père Noël. Hein? Mon troisième fait la réputation de la commune de Beauval. Mon quatrième, stay on the scene like a sex machine.
Et mon Lorenzo Brown.
Lorenzo Brown, excellent. Ah!
Maudolo,
absolument.
Le zoo de
Rennes.
Zoo de Beauval. Zoo et Brown. James Brown.
Il est lourd. Non.
Oh my God.
Il est content. Ça fait 3 points pour Steve, 2 points pour Arnaud, 1 point pour Fred. Mais Fred, tu peux encore gagner ce quiz, car nous allons passer aux enchères. Enchères, c'est Fred qui commence, Arnaud deuxième, Stephen troisième. Fred, je vais vous demander de me sortir un max de noms dans le 5 majeur du dernier Euro de basket 2017. Donc il y en a 5 au max. Tu veux te tenter sur combien?
Le 5 majeur de la compétition.
Ouais, le 5 élu meilleur joueur de la compétition. Fred, tu veux réfléchir?
Un.
Un, ok. Arnaud, tu enchéris?
Oui. Est-ce que j'enchéris à 2 ou à 3? 3.
3. Steve, est-ce que tu enchéris?
Non.
Alors, Arnaud, je t'écoute. Donne-moi mon stylo.
Dragic.
Bien.
Doncic, qui est d'ailleurs mis à poste 4. Et là, j'hésite. Je crois qu'il y a soit Markkanen, soit Porzingis.
Ah bah là, soit ça marche pas, soit.
Ah, je sais. Je réfléchis à haute voix, j'ai le droit. Plutôt que de faire des blancs en radio, je réfléchis à haute voix. Et je vais dire Markkanen.
Ni l'un ni l'autre. Donc il n'y a pas de regret. Voilà. Il n'y avait pas au gazole.
Ah, la gasoline est toujours là, la gasoline.
J'avais un doute.
Bogdanovic. Et Alexei Shved.
Eh oui,
pas facile, hein.
Eh oui, Shved.
Donc un point pour Stephen, un point pour Fred. Donc on est à 4-2-2. On arrête le massacre ou je vous donne une dernière chance?
Bah, une dernière.
Oui, c'est pour le tout à préparer. Bon.
Dernier Euro 2007, les Bleus 9e. 2017, excusez-moi. 2007, ouais. Les Bleus 9e.
Ouais.
Vous allez me donner chacun votre tour, un des joueurs de l'équipe de France, jusqu'à ce que vous n'ayez plus de joueurs à me donner. Dans ce cas-là, vous serez éliminé. Et je peux donner plus de points aux gagnants, Fred, si jamais tu finis en les laminant, en nous donnant les 3 derniers noms, par exemple. Qui commence? Alors attendez, la stratégie, c'est quoi? Celui qui a le plus de points.
En fait, tu veux me poutrer, j'ai bien compris.
Non, je veux leur laisser une chance. Steve, je veux leur laisser une chance, quand même. Allez, tu commences, Fred.
De Colo.
Nando De Colo, je raye. Arnaud.
Evan Fournier,
je raye. Stephen.
Geoffrey Lauvergne,
c'est excellent. Il commence déjà par les noms pas forcément les plus évidents pour gagner du temps. À toi, Fred.
Batum.
Nicolas Batum.
Énorme.
Élimination de Fred Weiss, donc il ne gagnera pas ce quiz. Arnaud Valadon.
Boris Dio,
c'est bon.
Babac, qui prend un énorme tomard de Daniel Theiss d'ailleurs, oui. 8e de finale contre l'Allemagne.
Steve.
Oui,
je me souviens pas de cette action, tu vois.
Je me souviens pas.
Je suis pas sûr qu'elle ait eu vraiment lieu.
Si.
T'es pas sûr que... Ah oui, parce que c'est Babac.
Allez, Fred, Steve,
c'est à moi.
Pardon, ouais.
Je vais dire... Putain, j'avais un garçon, je l'ai perdu. Je vais dire Thomas Hurtel,
c'est excellent. Arnaud.
Léo Westermann.
C'est excellent. À toi,
c'est
Steve.
Excellent, Léo Westermann.
C'est excellent, Léo Westermann, ouais. Il vous en reste un, deux, trois,
je
quatre...
Vais dire...
J'ai peur qu'il me le pique.
Je vais dire Toupane Shakur.
Axel Toupane, c'est excellentissime. Ils sont bons, hein. Il nous en reste que quatre.
Kevin Sarafin.
C'est excellent.
Ah.
Stifou.
Et celui-là, je l'avais. Louis Labrocante.
Lucho Lameri, ça passe. Et donc, à toi, Arnaud. Arnaud, tu, si tu me trouves les deux derniers et que Steve...
ces deux garçons qui avaient un vrai rôle ?
Je saurais pas te dire, mais je ne pense pas. Au vu de leur... Mais on sait jamais, parce que 2017, c'est trop loin pour moi. Hein. En tout cas, pas dans le jeu 5 majeur.
Ouais, il était pas,
tu viens de Talangocha ?
Bah, j'ai tenté un truc.
Ouais. Tu peux, hein, franchement, c'est des gars qui ont une solide carrière internationale.
Rodrigue Bobois ?
Non.
Ah !
Qu'est-ce que t'as les deux derniers ?
I'm sorry, Miss Jackson. Edwin.
Edwin.
Et Pierman Poirier.
Non. Poirier.
Non.
Non.
Non. C'est un gars. C'est un gars qui a un rôle. C'est un gars dont on entend le nom dans la fameuse causerie de Tipeee.
Antoine Diot,
exactement.
Ouais,
bravo. Donc, Steve, tu les as massacrés. À la semaine prochaine et bon Euro à vous, messieurs.
Merci.
RMC Basket Time.